Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour, bienvenue là dans la deuxième heure de Culture Média. Enfin chanteuse, Camille Lelouch est avec nous dans un instant après le tube de l'été, duo dont vous vous souvenez encore, mais je t'aime, en compagnie de Grand Corps Malade. Son premier album arrive en mars, nous avons ce premier titre où elle remercie son ex. Camille Lelouch est notre invitée dans une dizaine de minutes, Damien Caprespine, déjà en studio pour lui tirer le portrait sur le thème Drama Queen. Les indispensables de la matinée, Nicolas Caro et un roman culte, roman américain, ainsi que Joy Raffin et trois biopics de champions sportifs et puis d'autres légendes. Tout de suite, dans un instant, avec Eva Rock, Culture Média, deuxième heure, c'est parti. On n'a peut-être pas fini d'en consommer des séries, tant mieux. Ou bien tant pis. Eva Rock continue d'égrener celle qu'elle a préférée. Ce matin, une série qui normalement est finie et c'est tellement dommage. Bonjour Eva.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
L'indice du jour pour votre série du jour.
Un téléphone portable, il est de tous les plans, l'objet pour informer, communiquer, pour espionner et être espionné. Alors le téléphone portable, c'est aussi l'objet de tous les dangers pour Malotru, le héros de l'exceptionnelle série d'espionnage d'Éric Rochant, le Bureau des Légendes, à tel point que Malotru a opté pour le portable jetable, une seule utilisation, avant de le piétiner, de le briser.
Pas de trace.
Pas de trace, exactement. Casser avec violence cet objet pour rester en vie. C'est son destin à Malotru depuis 5 saisons que dure la série. La dernière est dans la lignée des précédentes. Un va-et-vient permanent entre l'émission à l'étranger où la politique internationale s'invite et les destins personnels des femmes et des hommes employés de la DGSE. Ces 10 épisodes vont nous trimballer ainsi en Russie avec des agents doubles, au Cambodge avec des hackers ou encore au Moyen-Orient où la vente d'armes est toujours un quasi passe-temps. Extrait de la bande-annonce qui réussit le tour de force de ne rien spoiler mais vous donne un aperçu de l'ambiance.
Je vais te donner la définition d'une saloperie. C'est laisser partir un agent sur le terrain alors qu'il n'est pas opérationnel. Ça, c'est salaud.
Il est mort ?
Probable. On n'a pas de confirmation.
Je savais qu'ils allaient se débarrasser de lui.
Moi aussi.
Cette nouvelle peut déstabiliser tous les agents sur le terrain.
Histoire de перемещение.
Qu'est-ce qu'on cherche ?
Pourquoi ils auraient fait ça ?
Les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
Sans rien dévoiler évidemment de l'intrigue, sinon on va attirer les haters.
Oui.
Eva, comment débute cette dernière saison ?
Avec l'annonce de la mort du héros Malotru, incarné par Mathieu Kassovitz. C'est le directeur du renseignement qui l'annonce à Marine Loiseau, agent joué par Sarah Giraudeau.
Il y a eu un accrochage entre les forces séparatistes pro-russes et l'escorte ukrainienne qui accompagnait Malotru. Des obus sont tombés et il y a eu 4 morts, dont Malotru.
Il est mort ?
Oui.
Il est mort sous les obus ?
Dans l'incendie provoqué par les obus.
C'est du pipeau.
Non.
C'est la version officielle ?
C'est la vérité.
Que vous allez servir à tout le monde.
Que l'on va dire à tous ceux qui ont besoin d'en connaître.
Si vous avez l'impression que le texte est récité comme une sorte de leçon, ce n'est pas du hasard. Dans le Bureau des Légendes, tout a un sens, même le ton de la voix des personnages. C'est la série de la rigueur, du détail, les mots, les gestes, les actions doivent être plausibles, cohérents d'une saison à l'autre. Une forme d'hyper-réalisme qui fascine, au sein même de la DGSE d'ailleurs, celle de la vraie vie. Les deux derniers épisodes sont signés Jacques Audiard, avec notamment un tableau final onirique. Alors chacun aura son avis sur cette fin.
Ah, il y en a eu des avis.
Il y en a eu des avis, il y en a eu beaucoup. Et je pense que le débat n'est toujours pas clos. Cette saison demeure pour moi d'une grande qualité, avec une capacité à essayer de comprendre les notions d'engagement de chaque agent, leurs tourments existentiels et les contradictions qui rythment leur quotidien entre cause nationale et cause personnelle. Éric Rochant a évoqué l'éventualité d'une suite, alors sans doute un spin-off autour d'un personnage, peut-être celui incarné par Louis Garrel. Le réalisateur français superviserait la production, mais ne serait ni à l'origine du scénario, ni à la réalisation. D'autres projets avec les Américains l'accaparent.
Si on votait, moi je voterais pour un spin-off autour de Marie-Jeanne.
Ah, c'est pas une très bonne idée, j'adore ce personnage féminin, exact.
Est-ce qu'on peut encore voir les 5 saisons du Bureau des Légendes,
Oui, sur mycanal.fr ou en VOD. Si vous aimez les séries d'espionnage, je vous conseille une autre excellente série franco-israélienne sur arte.tv, No Man's Land, avec notamment Félix Moati et Mélanie Thierry, ils sont frères et sœurs. Elle s'est engagée auprès des femmes kurdes en Syrie, lui cherche sa sœur et se retrouve embarquée malgré lui dans les violents combats entre Daesh et les Kurdes. Cette série mêle avec brio espionnage, drame familial et thriller. Ce fut un de mes coups de cœur de cette année 2020.
Et probablement alors que vous y revenez dans vos podcasts.
Évidemment.
Syriland à binger sur europe1.fr et sur toutes les plateformes. À demain Eva.
À demain.
Indice pour la série de demain, un foulard. Si, si, cherchez bien. Quand c'est fini avec quelqu'un, soit le maudire, soit le remercier. Camille Lelouch sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Cet été, sa déclaration d'amour un peu triste nous avait séché, mais Je t'aime en duo avec Grand Corps Malade sur fond de valse avait tout emporté, 45 millions de vues vidéo dingo. Cet hiver, son nouveau titre magnifie une rupture, vous venez de l'entendre, je remercie mon ex. Camille Lelouch chante Les Montagnes Russes, pourvu qu'il y ait des sentiments, son premier album est attendu en mars, de quoi sera fait son printemps? Bonjour Camille Lelouch.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ah bah merci à vous d'être en direct dans Culture Média ce matin, comment ça va?
Super bien. Bah, en fait, dès que j'ai un contact humain, je suis heureuse. Donc,
donc
ça va. Bah, là, à ce stade, oui, on en est là. Hein.
Faut
donc, je suis très heureuse.
ça veut dire, bon, un petit serveur Deliveroo, tout va pour vous.
Bah, ça veut dire, il y a aussi de l'Uber Eats, hein. Parlons aussi de la concurrence. Hein.
enfin, un premier album en vue, Camille Lelouch. Ça fait longtemps, non, que vous l'attendez?
Ouais, ça fait. Alors que je l'attends. Non, j'ai toujours voulu le faire parce que c'est mon premier amour, mais quand je me suis mis dans mon spectacle d'humour, je me suis dit de toute façon je le ferai après. J'attendais plus, mais c'est vrai que j'en ai rêvé longtemps, mais comme ça n'allait à chaque fois jamais dans les directions dans lesquelles je voulais aller, c'est vrai que puis c'est une histoire de timing aussi, je pense que c'était le bon moment et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir cette liberté d'expression qui fait que je peux chanter ce que je veux sans qu'on me dise vraiment comment faire ou quoi faire. Du coup, je me suis dit, vas-y, et puis chante ce que tu as envie de chanter. Si tu veux faire une valse, tu fais une valse. Si tu veux faire un peu de pop, tu fais de la pop. Et c'est ce que j'essaye de faire.
Parce que ça a été ça, l'embrouille. Vous aviez eu des occasions, mais bon, il y avait des questions de marketing. Ne fais pas ça, fais plutôt comme ça.
Bah, j'avais l'occasion déjà à 17 ans. Je devais signer dans une maison de disques. Et puis, il y a eu plus tard une autre maison de disques. Et j'ai toujours dit non parce que... Parce que je n'aime pas déjà dans ma vie en général qu'on m'impose quoi que ce soit. Sauf quand c'est vraiment pour m'aider ou justifier. Mais j'avais déjà mon petit caractère jeune. Et puis moi je sais ce que j'aime chanter. J'ai jamais voulu qu'on m'impose quoi que ce soit, même musicalement. Et donc ça me dérangeait de me faire connaître avec des choses qui ne me touchaient pas en plein cœur et que je ne composais pas et que je n'écrivais pas déjà à 17 ans. Donc forcément ça a mis 15 ans. Mais comme quoi le travail paye à côté. Enfin avant ça il y a eu l'humour et c'est pas fini d'ailleurs. Et puis aujourd'hui je suis libre dans mes chansons donc j'espère qu'on aimera. Évidemment c'est pour tous les âges, il y en a pour tous les styles. Donc il y en a qui aimeront moins mais je t'aime. Puis il y en a qui aimeront plus je remercie mon ex et vice versa. Mais en tout cas c'est toujours avec le cœur donc. J'espère que ça touchera toujours.
Ouais, vous êtes aussi effectivement auteur-compositrice parce que c'est pas toujours
et
le
autrice,
cas.
Du coup, et autrice.
Et autrice, bien sûr.
Mais on a du mal, moi aussi j'ai du mal à le dire.
Ouais, autrice, bon. Après, il y en a qui aiment, mais je trouve pas ça très très beau à l'oreille. Mais enfin bon.
C'est pas très joli, ouais, mais
voilà.
Bon.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet album? Comment va-t-il s'appeler? Combien de titres? Serons-nous déconfinés quand il sortira? Tout ça?
Franchement, je peux même pas vous le dire. Parce que ça, c'est pas lié à moi, c'est lié à monsieur le président. Non, mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien le savoir. J'ai pas de titre à donner parce que j'en suis pas sûre encore.
Ah bon? Vous hésitez?
Oui, sur le titre, oui, parce que c'est...
Bah dites-nous, on va vous conseiller.
Non, pas du tout. Non, 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 non. Vous n'aurez pas d'exclus sur ça, vous êtes maligne. Maline. Non, non, parce que vraiment, en vrai de vrai, je vous l'aurais dit, mais en fait, j'ai un doute, donc je préfère pas le dire. C'est pas du tout un truc de je veux pas le dire, c'est que j'ai vraiment un doute. Donc ce serait bête de donner un titre qui ne sera pas celui-ci. En revanche, pour le style musical, je pense que je suis pas très novatrice. C'est juste que j'ai besoin de chanter moi aussi mes blessures et mes peines et l'amour que j'ai pour ma famille, pour mes amis. Donc ce sera peut-être novateur dans le style musical ou peut-être dans les paroles, mais en tout cas. Ce sera pas des thèmes qui seront très novateurs, quoi. Voilà, l'amour, l'amitié. Je parle de la violence aussi faite aux femmes. Ça, c'est un sujet déjà que j'aborde dans mon spectacle en tant qu'humoriste.
Mais oui, exactement, ouais.
Voilà, et qui est voilà très présent pour moi. Et en fait, faut juste en parler en permanence pour pas que ça disparaisse, parce que c'est vrai que on dit toujours oui, il y a moins de, enfin, on combat ça, mais il y a moins de femmes battues. Je dirais pas qu'il y en a moins, je dirais qu'on en parle plus, c'est tout. Et qu'avant, on en parlait juste moins. Il faut juste toujours en parler pour pas que ce soit oublié et que ce soit dramatique en permanence. Mmh. Voilà. Donc non, c'est un sujet qui m'importe, donc j'en parle. Il y aura aussi des chansons joyeuses, hein, de fêtes, de joie. Mais c'est vrai qu'en général, en musique, j'ai moins de... Enfin, j'enlève un peu ma pudeur et c'est là où j'exprime tout. Je fais ma thérapie, donc effectivement, il y aura des... Comme Mais je t'aime, par exemple, qui est une chanson qui est pas joyeuse, mais qui n'est pas non plus une chanson de rupture.
Quand vous dites je pense que ma thérapie, c'est une image.
Non, c'est pas une image. Hein? Je pense que la musique, c'est vraiment ma thérapie. Je me libère en chantant. Et j'assume totalement ça. C'est-à-dire que quand je suis très triste, je compose. Quand je suis très heureuse, je compose. J'ai pas de. C'est vraiment ma thérapie.
La chanson, c'est quand même votre moyen d'expression, disons, le plus naturel. Il y a l'humour, évidemment, sur scène, avec votre spectacle, et aussi sur mm-hmm. Instagram, allez voir, c'est assez drôle, mais ce qui sort surtout, c'est la chanson.
Oui, tout à fait. En fait, c'est le moment, je triche jamais, mais à ce moment-là, c'est-à-dire que je n'ai plus de filtre, de pudeur, de carapace, c'est-à-dire que je m'exprime vraiment. C'est pour ça que ça m'arrive des fois... sur scène quand je chante, parce que dans mon spectacle d'humour, je chante aussi, pour les gens qui l'ont déjà vu, ils le savent, ça m'arrive de pleurer, parce que j'ai pas de...
Oui,
j'arrive pas à me protéger.
Oui, ça vous arrive de temps en temps. Ouais. Ne bougez pas, mais s'il vous plaît, Camille Lelouch. Enfin, si vous pouvez bouger un peu, mais pas trop loin. On revient...
je bouge pas.
On revient dans 2 minutes avec vous. Merci, à tout de suite.
Entendu.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
4 jours, encore 4 jours de cette année 2020 qui a fait son intéressante. Nul ne sait à quoi ressemblera la suivante. Au moins, sait-on que Camille Lelouch sortira son premier album. C'est sûr, Camille?
Oui, c'est sûr. Bien sûr.
Bon, c'est en mars, normalement. En tout cas, c'est le moment pour vous de vous faire tirer le portrait. Bonjour, Damien Caprespine.
Bonjour.
Camille
Lelouch. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Camille.
Camille Lelouch.
Ça va me faire tirer le portrait dès le matin, c'est quelque chose.
Bah oui. Enfin, là, on est au figuré, hein, vous comprenez bien.
Mais j'ai bien compris. Bah, j'entends bien, mais ça serait compliqué.
Alors allons-y, Camille Lelouch, drama queen.
Et oui, car c'est étonnant, il y a en vous, Camille, un côté obscur de la force.
Je vous rebonjour, c'est toujours la cousine Kim Kardashian. Aujourd'hui, on va faire un tuto avec un rouge à lèvres.
Ça, c'est donc votre côté pile, c'est-à-dire l'humoriste tonitruante, l'instagrammeuse désopilante, mais vous êtes gémeaux, Camille, vous êtes née un 10 juin. Et c'est bien connu, les gémeaux sont doubles. Il y a donc aussi votre côté face, et celui-ci, il se traduit plutôt en musique.
Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je... dans le vide que mon...
Dès vos premiers titres publiés sur internet en 2014, vous avez baissé la garde, vous avez brisé la carapace, vous avez chanté des textes qui mettaient en avant vos bosses, vos tourments et vos fêlures.
C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas.
Depuis, vous êtes devenue la reine de l'émotion et de la mise à nu. On peut même dire la drama queen du piano-voix.
Délicieuse vie caresse, moi gentiment, fais-moi plaisir. Je veux du masser, éprouver maintenant, j'ai compris.
Comme vos idoles Céline Dion et Whitney Houston, vous chantez les amours déchus. Vous vibrez au rythme des palpitations amoureuses.
Mon bel inconnu, oh quand je te vois, mon bel inconnu, oh mon cœur s'emballe des mondes.
Il y a eu une tendre version de Papa Outé sur le plateau de The Voice. Il y a eu un duo en cœur et de cœur avec Slimane.
Si on est deux. Si on est deux, on est plus fort. Si on est deux, si on est deux.
Vos pleurs imprévus dans le clip de « Mais je t'aime » ont résonné avec nos intimités, ils ont participé au succès du titre. Et ce trouble apparent vous a rendu encore plus accessible.
Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
En chanson, vous faites tomber vos barrières de protection, la tornade se transforme en brise d'été. Votre voix rauque et vos sanglots ont touché notre humanité. Car oui, et ça c'est imparable, devant tant de vérité, on est obligé de succomber.
Mais je t'aime. Je t'aime.
Damien Cabrespin.
Wow.
Est-ce qu'il a fait mouche, Camille Lelouch?
Bah écoutez, je suis très touchée parce que vraiment de me définir avec déjà autant de bienveillance et de clairvoyance, ça me touche profondément. Donc merci beaucoup. Merci. Voilà.
Vous pleurez ou pas?
Franchement, merci. Comment?
Vous pleurez là ou pas?
J'ai une petite émotion. J'ai pas le sanglot, mais moi je pleure tout le temps, il faut le savoir.
Oui.
Télé, interview. J'ai décidé que pour être en bonne santé, il fallait que je m'exprime. Enfin, je l'ai pas décidé, c'est le médecin. Mais du coup, depuis quelques années, je ne me retiens plus. Parce que j'ai pas envie d'avoir un cancer ou un ulcère plus vite que prévu. Du coup, maintenant, je pleure. Bon, peut-être un peu trop. Mais au moins, je me libère. Mais vraiment, merci du fond du cœur. Parce que j'aime beaucoup que vous me parliez de mon signe à ce moment-là. En disant qu'il y a le côté, sombre et le côté vraiment, lumière, si je puis dire. Et c'est vrai. C'est exactement ça. Et puis, j'assume totalement qui je suis. Et la manière dont vous m'avez défini me touche beaucoup. Alors, merci.
Merci à vous.
C'est vrai, Camille Lelouch, qu'on vous voit volontiers débordé par les sentiments. Et vous avez l'air de dire que c'est récent.
Que je me lâche. En termes de
pleurs. Vraiment, ça fait vraiment.
Que je me laisse aller. C'est-à-dire que même que j'ai plus confiance en moi. Parce que quand on pleure, c'est qu'on a plus confiance. C'est qu'on assume. Clairement, pour moi. Qu'on se protège moins, du coup. Je pense que ça fait quand même maintenant, je dirais 4 ans. En fait, à partir du moment où j'ai un médecin qui m'a dit, en fait, vous choisissez. C'est parce que vous êtes trop angoissé, mais vous gardez tout, vous gardez tout. Du coup, vous êtes trop en colère. Et du coup, les gens pensent que parfois vous êtes trop impulsif. En fait, vous êtes juste triste. Donc, pleurez. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, je m'adoucis et puis je pleure. Ouais, je m'adoucis encore plus.
Ça a tout changé de laisser aller, ouais.
Ouais, ouais, ça a tout changé, en fait, parce que, c'est vrai que je suis quelqu'un qui me protège beaucoup en général, dans mon entourage, avec même ma famille, mes amis, dans mon travail. Je suis très très dure dans le travail, ça j'ai aucun problème à le dire. Je suis très exigeante et parfois je suis tellement exigeante que je souffre. Et du coup, on peut avoir l'impression que j'en deviens méchante alors que c'est pas du tout ça. C'est juste que je souffre tellement parce que je veux tellement bien faire et je me protège tellement que j'en suis trop exigeante. Et du coup, pour ça, il faut que je pleure, il faut que je lâche. Et en lâchant, on comprend qui je suis. Voilà.
Alors c'est curieux les choses parce que même quand vous jouez au cinéma, par exemple dans le film de Rebecca Zlotowski, qui est allé à Cannes Grand Central 2013 avec Léa Seydoux, Taha Rahim, Olivier Gourmet, vous chantez, deux, vous chantez les sentiments. Extraits.
Gary, Gary, viens, joli,
c'est joli, quand il devient fort, fiez-vous mes amis, j'ai sous le feuillage. Comme un serpent gris, n'allez pas quand il dort, surtout le réveiller, n'allez pas car il mord, si vous le réveillez.
Maladie. Bah oui, maladie d'amour, on peut pas lutter, oui, Camille Lelouch. Hein, ça vous poursuit, ça s'appelle presque une destinée, non?
Oui, c'est vrai, je crois, de toute façon, il faut choisir dans la vie, hein, parfois, c'est soit on réussit dans son métier, et on est comblé, soit on a l'amour et on est comblé. Je pense que j'aurai toujours de l'amour dans ma vie, mais je sais pas si je serai comblée avec ça. Je pense que moi, c'est mes métiers. Ce sont mes métiers qui me comblent. Et dans ce film dont vous parlez, je me fais aussi raser le crâne. Mmh. Et ça, c'est le moment le plus émouvant et violent pour moi, dans le bon sens du terme, quand je dis violent. Donc c'était très intense. Donc là, en fait, ce qui est fou, c'est que de toutes mes passions, j'ai commencé avec le cinéma. En fait, à être connu en vrai. La première chose que j'ai fait, c'est un film. Alors qu'en vrai, j'aurais dû naturellement commencer par la chanson et ensuite l'humour. Mais en tout cas, j'ai commencé par là.
Ouais. En deux mots, il y a eu quand même l'émission The Voice. Hein. Vous êtes arrivé jusqu'à la demi-finale.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que ça reste une belle expérience ou ça vous a un peu perdu, cette histoire?
Non, c'est une belle expérience. J'ai beaucoup souffert, moi. Pendant cette période, parce qu'en fait, vraiment, je revenais d'un moment de vie dur parce que je refusais, j'en avais assez du non en permanence. Et puis, je voulais vraiment tout arrêter, quoi. C'est-à-dire que tout était trop dur. Et donc,
On va revenir là-dessus, pardon de vous interrompre.
Je vous en prie.
Je vais vous dire la vérité, il faut que j'envoie la pub.
Et comme
ce que vous dites m'intéresse vraiment, je vais pas brader l'affaire. Restez avec nous, s'il vous plaît.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Avec Camille Lelouch, pardon de vous avoir interrompu à
l'âge. Non, je vous en prie.
Je suis désolée.
C'est le jeu. Je parle trop, c'est de ma faute.
Non, du tout. Surtout que vous décriviez un moment un peu douloureux. On en était à The Voice, la demi-finale.
Oui, tout à fait. Non, je disais que quand j'arrive déjà avant de faire ces castings, c'est un moment très sombre, très dur pour moi, parce que j'en ai marre du refus, j'en ai marre du non en permanence. Et donc toute la période de Voice, déjà j'ai rencontré des gens fantastiques, parce qu'il y a les coachs qu'on connaît, puis il y a aussi les coachs de l'ombre qui nous coachent dans l'ombre, avec qui, enfin en tout cas mon coach, je suis restée en contact avec lui. J'ai des amis dans The Voice. Il y a Anne Silla qui m'a sorti en demi-finale, qui est mon amie.
Ah c'est vrai, ouais.
Oui, tout à fait. Il y a des gens avec qui je suis restée évidemment en contact, mais c'était tellement dur que en fait quand je suis arrivée, quand on m'a mis en lumière, j'attendais ça depuis tellement longtemps que je souffrais au lieu d'être dans le plaisir. Et donc les gens dans The Voice, dans les coulisses, savaient, puisque je vomissais avant de monter sur scène, puisque j'étais malade, et parce que c'était vraiment quelque chose de... Tout était viscéral et vital à chaque fois, chaque performance. Donc ça m'a donné une belle expérience. Après, par contre, sur la tournée, je me suis régalée. C'était du plaisir, je savais que j'étais devant les gens, etc. Mais cette période-là, elle était fantastique et à la fois douloureuse, parce que je me suis dit, si je me fais renvoyer, entre guillemets, peut-être que je vais disparaître, alors que j'ai attendu ce moment-là depuis tellement longtemps. Voilà.
Ouais. On sent que, voilà, il y a beaucoup de sentiments, comme disait Damien,
moi je suis
drama queen. Hein.
Ouais. Mais sans le faire en vraiment drama queen, gospel.
Non. en tout cas, ça commence par l'écriture.
Bien sûr.
Soit écrire des chansons, que ce soit écrire même vos petits posts sur... Je dis petits, c'est pour la durée,
oui,
sur Instagram.
Des petits posts.
On va parler littérature à l'instant, puisque Nicolas Carreau est avec nous toute la semaine. Vous lisez beaucoup, Camille Lelouch?
Je lis pas mal, effectivement.
Mm-hmm. Alors Nicolas a choisi ce matin un roman culte, un roman américain, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, signé d'Harper Lee. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal, quel génie de la transition. Moi, ça me... voilà, c'est toujours une
leçon. Génie, c'est un peu faible. roman culte, dites-vous, mais pourquoi ?
Roman incroyable, je vous rappelle l'histoire, c'est Scott qui raconte, Scott comme un boy scout. Scott, c'est un surnom, son vrai nom c'est Jean Louise. C'est une jeune fille de 13 ans à peu près, nous sommes en 1933 à Maycomb, une petite ville en Alabama. C'est l'été, elle traîne un peu avec son frère Jem. Les deux enfants rencontrent leur petit voisin. J'adore la rencontre, c'est bien dans l'esprit du roman. Ils sont chacun d'un côté de la clôture qui sépare les deux jardins et ça donne ça. Salut,
salut.
Je m'appelle Charles Baker Harris. Je sais lire.
Et alors ?
Je pensais que vous aimeriez le savoir, si vous avez besoin que je vous lise quelque chose.
Et les enfants font des bêtises.
Comme tous les enfants, mais rien de méchant. Ils s'intéressent particulièrement à Boo Radley, en tout cas à sa maison. Personne ne le voit jamais sortir, ce Boo Radley. Il est mystérieux et donc il intrigue les enfants, un peu comme une maison hantée. Ils veulent savoir ce qu'il en est, alors ils vont essayer de s'introduire dans la maison de Boo Radley. Ça, c'est pour la vie normale et banale des enfants en été. Mais Jem et Scott ont une particularité. Leur père, Atticus Finch, est avocat. C'est un type bien Atticus, très intègre, très droit. Un jour, il doit défendre Tom Robinson, un noir accusé d'avoir violé une blanche. Autant vous dire que dans les années 30, en Alabama, vous pouvez remplacer tout de suite accusé par condamné. Pas facile pour les enfants. Leur père, pourtant très respecté, se fait insulter par certains villageois. Les enfants aussi d'ailleurs, mais Atticus tient bon. Il y a une scène très importante dans le roman, ça se passe à la prison de Maycomb. Des villageois sont venus chercher Robinson. Le procès n'a pas encore eu lieu, mais ils veulent régler ça à leur manière, si vous voyez ce que je veux dire.
Ça veut dire le lyncher.
Exactement, sauf qu'Atticus est là, avec Jem et Scott. Atticus fait barrage. Je vous laisse découvrir cette scène, c'est très très émouvant.
Donc, roman culte, qu'est-ce qui vous a plu vraiment, Nicolas Carreau, dans ce livre, et qu'est-ce qui a fait son succès ?
Publié en 1960, prix Pulitzer en 61, adaptation au cinéma avec Gregory Peck dans le rôle d'Atticus Finch, Oscar du meilleur acteur d'ailleurs, c'est l'un des livres les plus vendus au monde. J'ai demandé à Isabelle Hausseur, la traductrice, ce qui faisait le génie de ce livre.
Le génie, je crois, c'est le monde de l'enfance. Parce que son génie dans ce roman, c'est de faire raconter cette histoire par un adulte, mais qui se place au moment où elle était enfant. Et elle fait ça tellement bien qu'on oublie que c'est un adulte qui parle et on a l'impression que c'est un enfant. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de monde vertigineux dans lequel elle nous fait entrer. Et même si, quand on est adolescent, qu'on lit ça, on ne comprend pas le truc narratif qu'elle a utilisé, on ne peut qu'y être sensible malgré tout. Il se passe comme un charme, comme un envoûtement qui vient de là, je crois, de ce décalage.
Aux États-Unis, Nicolas, c'est un monument, mais en France, c'est un livre qui est moins connu. Pourquoi ?
Beaucoup moins, mais peut-être à cause justement des traductions précédentes.
D'abord, il y a un problème de traduction. C'est-à-dire que il y a eu deux traductions avant celle que j'ai reprise. Et la première n'est pas une version intégrale. La deuxième était intégrale, mais très francisée. Et du même coup, je pense qu'on perdait une partie du charme de ce roman. Parce que ce roman, c'est non seulement les États-Unis, mais c'est le Deep South. C'est vraiment le sud profond avec ses relations particulières entre les Noirs et les Blancs. Et donc, franciser tout ça, ça ne pouvait pas passer. Il y avait une espèce de déséquilibre qui se produisait.
C'est d'ailleurs le sujet central du livre qui va beaucoup intéresser Camille Lelouch.
Ouais,
c'est s'intéresser à l'autre.
Absolument, c'est d'abord une réflexion sur la différence, sur le racisme. Quel est ce mystère, enfin, qui fait que l'on se méfie de ce qui est différent ? Je ne sais pas si la réponse est dans le livre, mais Harper Lee traite le sujet avec une finesse incroyable, sans doute grâce à ce vrai-faux regard d'enfant. C'est aussi un livre sur la non-violence. Le titre, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, vient d'une scène du roman. Les enfants ont reçu de petites carabines à plomb en cadeau. Atticus leur dit qu'ils peuvent tirer sur les boîtes de conserve pour s'amuser, mais de surtout, surtout, ne pas tirer sur les oiseaux moqueurs, une espèce d'oiseau qui ne fait que chanter, qui incarne un peu l'innocence.
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Harper Lee. Merci Nicolas Caro.
Traduction donc d'Isabelle Hausseur et Isabelle Stoyanov.
De Isabelle, merci et je vous dis à demain. Ça donne envie, non, Camille Lelouch?
Ça donne envie et sans transition vraiment, je me rappelle qu'actuellement j'écris une chanson sur ça, sur ce sujet, en tout cas sur le racisme et ce qui se passe un petit peu actuellement partout. Donc,
Elle sera dans l'album donc?
Ah oui, si, ça, c'est certain. Elle va faire parler, je pense.
Et elle s'appelle ?
Elle s'appelle C'est pas de ma faute.
Ah, une info.
Mais enfin, je vous donne une exclue, là. C'est-à-dire qu'elle est même. J'ai même pas fini de l'écrire.
Ah bah merci.
Et personne, c'est-à-dire que même ma maison de disque n'est pas au courant. Elle va s'appeler C'est pas de ma faute. Oh là là, vous m'avez bien nue, là.
J'espère qu'elle écoute votre maison de disque.
Bah, c'est sûr, bah, je vous le confirme. Là, je suis dans la merde. Allez, super, merci, au revoir.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Je remercie mon ex, c'est le nouveau titre de Camille Lelouch. Déjà, paraît-il, 2 millions de streams. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air bien, Camille.
Ouais, ça a l'air énorme. Ça me semble pas mal, 2 millions.
Ouais, c'est 2 millions, donc tout va bien. Vous avez des retours à ce morceau et de quel type ?
Alors, j'ai pas mal de retours et souvent, c'est sur Instagram, en fait. J'ai plein de femmes ou d'hommes célibataires qui font des posts très rigolos. Et il y a une femme qui se poste avec ses triplés, par exemple, qui est célibataire, donc pas facile, mais elle le prend assez bien. J'ai aussi plein de nanas qui sont avec leurs copains, leurs compagnons, ils viennent de les demander en mariage, donc elles montent leur bague avec le compagnon à côté en remerciant leur ex. Toutes ces choses-là. Les garçons sont plus énervés, les garçons font des doigts d'honneur dans les vidéos, même si c'est humoristique. Mais non, en général, les gens sont en fait contents, ils se montrent avec leurs nouveaux amours, nouvelles amours, si je puis dire. Et non, je trouve ça plutôt positif en fait, parce que c'est vrai qu'en général on est toujours en train de s'énerver, de dire ouais bah il va voir ou elle va voir, etc. Et au final pourquoi, parce que c'est un mal pour un bien, et c'est pas vraiment un mal, c'est juste que sur le coup on souffre parce que on est triste, mais au final avec le temps tout s'en va.
Quand vous chantez mon ex,
c'est, il y en a un de trop là.
Ah, j'en ai un de trop.
Il n'y en a que trois.
Ah, il n'y en a que trois. Attendez, on vérifie, on vérifie.
Tout ça, c'est de la rythmique.
Ah oui, il y en a trois, ouais.
Évidemment. C'est drôle que vous voulez vérifier alors que c'est moi qui l'ai composé et que c'est une gimmick.
Exactement.
Non mais bravo, hein, super.
Non mais c'est dur à chanter. C'est dur à chanter, mon.
C'est pas simple, mais oui. Ouais. Parce que c'est pas mo, c'est pas mou, c'est mon.
Ouais.
Le mon est plus dur.
Exactement.
Mais la gimmick, elle reste en tête. C'est pour ça qu'on appelle ça une gimmick.
Est-ce que vous êtes sensible au sport, aux exploits sportifs, aux légendes, Camille Lelouch? Dites-moi oui, sinon je suis mal.
Oui, moi je fais du sport, donc je suis sensible à ça, mais aux légendes surtout.
Alors super. Voici de très bons documentaires en ce moment à voir sur les plateformes. C'est notre deuxième indispensable. Bonjour Joy Raffin.
Bonjour Pascal, bonjour Camille, bonjour à tous.
Alors trois séries sorties qui ont marqué l'année.
Alors tout à fait, on commence avec une série sortie il y a un an, mais qui est devenue culte depuis la mort de son héros le 25 novembre dernier. Ça s'appelle Maradona au Mexique.
Ah oui.
Ce docu-série retrace les 2 ans du grand Diego au Mexique, donc, où en septembre 2018, Maradona avait été nommé entraîneur de Los Dorados de Sinaloa, dans la ville de Culiacán, qui était le fief, je vous rappelle, du grand narcotrafiquant El Chapo. Et durant 7 fois une trentaine de minutes, on va suivre l'entraîneur le plus célèbre de la 2e division mexicaine, mais aussi les familles, joueurs et supporters de l'équipe. Entre images d'archives de Maradona joueur et reportages 2 années durant au plus près vraiment de l'entraîneur, cette série nous fait voir Maradona d'un autre œil. On découvre un homme qui a les jambes arquées et un genou fracassé et qui avoue être l'homme le plus romantique sur Terre, ayant offert jusqu'à 500 roses jaunes à une femme qu'il aimait.
Ah ça c'est beau. Deuxième conseil, Joy Raffin, s'il vous plaît. Alors, c'est de la F1, je le sens bien.
Elle a gagné, perspicace, parce qu'on ne peut rien lui cacher. Je vais vous parler de la série Formule 1, One to Drive. 2 saisons déjà sorties sur Netflix et on attend la prochaine pour 2021. La première saison de la série documentaire nous entraîne en immersion lors du championnat du monde de Formule 1 2018. Donc 5 continents, 21 courses, 10 écuries, 20 pilotes que l'on suit sur les coulisses de ce sport, un sport assez méconnu, qui est la course automobile. Pour être honnête, moi je ne suis pas hyper branché F1, on ne va pas se mentir, mais j'ai adoré entendre les stars du sport et les directeurs techniques des écuries se pencher sur les problèmes rencontrés lors des saisons et chercher des solutions pour les résoudre. Formule 1, Drive to Survive, donc traduisons conduire pour survivre, a un petit côté Game of Thrones, si je vous assure, avec ses rivalités entre maisons et ses courses aux trophées, vous devriez kiffer.
Et pour finir, Joy, rapidement si possible.
Ouais, ma série doudou, Back to the 90s, The Last Dance, biopic qui couvre la carrière du basketteur Michael Jordan de ses débuts à sa retraite chez les Bulls lors de la saison 97-98. Donc c'est sorti en plein confinement, cette série avait été diffusée sur Netflix et avait tout cartonné. Donc il y a plein d'images d'archives et de nombreux matchs, mais aussi vraiment de la vie quotidienne. C'est l'époque, vous savez, des t-shirts XXL, des chaînes en or, de Puff Daddy qu'on retrouve à la BO. Dans The Last Dance, que de souvenirs et puis des dizaines aussi de témoignages de la carrière du joueur. Donc Dennis Rodman, Magic Johnson, le regretté Kobe Bryant ou bien Barack Obama. The Last Dance ou les derniers pas sur le parquet de la plus grande star du basket du XXe siècle. C'est un ballet admirable.
Et voilà, on est paré parce que Camille Lelouch, on sent bien que vous craquez le confinement là, mais on n'en sait rien en fait.
On n'en sait rien. Moi, je me dis que là, on va mettre de côté tous ces documentaires parce que je pense qu'au mois de janvier, on est reparti.
C'est ça. Et sans doute que vous composerez encore.
Je vous en prie, mais vous me demandez de la sincérité, je vous en donne.
Exactement. Bon, nouvelle pause avant de vous retrouver. Il peut se passer des choses, je vous préviens. À tout de suite.
Ouais.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Camille Lelouch, toujours avec nous, avec ce premier album qui est attendu en mars et dont vous me rappelez le titre, j'ai oublié.
Ah non, il n'y a pas encore. Vous n'allez pas m'avoir. Vous êtes maline.
Oh, j'essaye.
Franchement, vous m'auriez eu si je l'avais eu. Si j'étais sûre.
C'est vrai? Ah ouais?
Ouais, vous m'auriez eu.
Ça s'appelle Vous m'auriez eu, c'est pas mal.
N'importe quoi.
Est-ce que vous repensez souvent à l'époque où vous produisiez dans les piano-bars, Camille? Et est-ce que ça reste, après coup, maintenant que le succès est en rendez-vous, est-ce que ça reste finalement un pas si mauvais souvenir?
C'est pas un mauvais souvenir. Le mauvais souvenir, c'est quand les gens ne t'écoutent pas parce qu'ils sont en train de manger.
Allez.
Ou quand tu vas chercher la personne qui doit te donner ton cachet et qu'elle est partie parce qu'en fait, elle t'a arnaqué. Voilà, c'est juste ça. En fait, moi, je me rappelle de ces périodes. Ce sont des bons souvenirs, mais aussi, ça me rappelle quand même une grande période de galère. Donc, tous les moments où je me remets en question, dans ma vie artistique, et où quand je doute, parce que je me dis, est-ce que ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Je pense quand même à ces moments. J'ai pas quand même envie d'y retourner.
Ouais.
Je préfère cette vie d'aujourd'hui avec les gens qui me reconnaissent et qui m'aiment, quoi.
Ah bah, on a beau dire, Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez beaucoup essayé toutes ces années sans que ça fonctionne. Qu'est-ce qui vous a fait tenir?
Vraiment, je pense que c'est mon entourage, ma famille et mes amis, quoi. Ça peut paraître assez cliché, mais c'est vrai. J'ai la chance d'être très très bien entourée. C'est vraiment une grande chance et une grande force. Et puis c'est vrai que Là, enfin, donc il y a ma famille, mes amis, et puis dans mon spectacle, moi j'ai travaillé avec Laurent Ginca pendant longtemps, qui est le frère de Titoff, l'humoriste. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui est venu à un moment où vraiment, c'était juste un peu avant The Voice. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, j'ai envie d'être sur scène, de faire un one-woman show, de chanter, danser, faire rire, faire pleurer. Il m'a dit, est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir faire pleurer dans un spectacle comique? J'ai dit, moi je veux être libre sur scène, donc soit t'es ok, soit tant pis. Mais il m'a dit, non, moi je suis ok. Et il m'a donné beaucoup de force psychologique parce que je suis névrosée, parce que même quand ça va pas. Et du coup, c'est dur d'accompagner un artiste quand on est dans l'ombre et puis de se dire il a du talent, mais il souffre quand même. Alors il faut le faire en sorte qu'il souffre moins, qu'il souffre plus. Et donc j'ai toujours été très bien accompagnée par les gens avec qui je travaille, ma famille et mes amis. Et ouais, je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, je crois que un peu moins, puisqu'ils voient que je suis heureuse et comblée, puisque je fais ce que j'aime. Mais c'est vrai que quand on fait pas ce qu'on aime, en général, peu importe le métier qu'on veut faire, on souffre. Enfin, en tout cas, moi, quand je fais pas tout ça, là, je commence à rentrer dans une phase où ça fait quand même 10 mois que c'est très compliqué. Quand on a pu remonter sur scène, j'ai pu remonter 5 dates, j'ai cru revivre. Mmh. Et puis d'un coup, on nous coupe les vivres. Et là, ça commence à refaire très très long. Et si on nous reconfine encore, c'est très 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 éprouvant. Là, ça commence à être très éprouvant pour moi qui suis censée et faire rire les gens et leur procurer des émotions. Là, c'est un peu dur.
Ouais. Dans l'idéal, il y a ce spectacle qui est à terminer. Hein. Vous avez fait 300 dates pour Camille en vrai. Faut encore clôturer. Ce sera la priorité.
Priorité absolue. Puis surtout, je pense que pour moi, me concentrer vraiment sur mon album et mes musiques. Alors c'est bien de faire plusieurs choses, mais après je pense que pour que j'ai la tête tranquille et sereine, il faut quand même que je le finisse, quoi. Même si j'écris à côté, ça l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, j'aimerais finir en tout cas ce spectacle quand je vais commencer mes concerts. Je pense que ce sera bon. Enfin, j'espère. En tout cas, j'en sais rien. Mais ouais.
Quand vous dites que vous écrivez à côté, ça veut dire que vous êtes déjà partie dans l'écriture d'un nouveau one woman?
Alors ça aussi, parce que c'est vrai que je dors jamais, mais surtout de finir mon album, quoi, sereinement, de me dire, quand je monte sur scène avec mon album, cette nouvelle étape, il faut que j'ai fini ce spectacle sur scène. Voilà, que j'ai clôturé, c'est mon bébé, ce premier spectacle. Mm-hmm. Et derrière ça, évidemment, j'ai déjà écrit pas mal de choses pour le deuxième, mais pareil, ce sera pas tout de suite, ce sera après... cet album et cette tournée, j'espère, avec cet album. Mais c'est piaffez. Assez frustrant de ne pas savoir.
Vous piaffez en attendant.
Ouais.
C'est compliqué. Une petite dernière question. Est-ce que votre ex a aimé Je remercie mon ex?
Eh bien oui. Eh bien oui, je ne pense pas que ce soit sa préférée. Je pense qu'il préférait Mais je t'aime.
Ah, c'est le même c'était...
Eh, c'est le même. Bah oui, oh vous savez, on arrive à tenir, nous. Hein. Quand même. Parce qu'il faut savoir que Mais je t'aime a été... Je l'ai écrite il y a 4 ans. Et donc ça faisait 2 mois que j'étais avec cette personne. Et puis Je remercie mon ex, c'est une chanson de rupture. Mais je t'aime, c'était pas une chanson de rupture. Et Fabien m'a, avec le plus grand des bonheurs, accompagné sur cette chanson. Il est venu finir cette chanson, puisque je n'arrivais pas à la finir.
Ouais, on a raconté l'histoire en compagnie de Fabien.
Exactement.
Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Camille Lelouch.
Merci à vous.
Venu dans Culture Média. Là, vous voyez, un petit peu de valse encore. Deux secondes. Tiens, je vais me la réécouter tout à l'heure, celle-là.
Bah, avec plaisir.
Ouais. Bonne journée à vous et puis on attend votre album. À bientôt.
Bah, avec plaisir. Merci de m'avoir invité.
Merci à vous. Allez, première page pour terminer l'entrée en matière en avant-première des romans de janvier. Ce matin, Carole et Clark, signé du journaliste sportif de l'équipe Vincent Duluc, autrement dit Carole Lombard et Clark Gable. Le livre sort le 13 janvier chez Stock. Première page. Comme tous les matins du monde, depuis qu'il lui en souvenait, il était monté dans la Lincoln Zephyr avec chauffeur qui serpenterait depuis les hauteurs de son ranch d'Encino jusqu'au bas de la colline là-bas, à Hollywood. Il prendrait un bout du Mulholland Drive, puis descendrait Sepulveda Boulevard, longerait le canyon qui atténuait la lassitude de ses aubes semblables, traverserait Brentwood jusqu'à Culver City et au studio Selznick sur Washington Boulevard. Il avait posé sur le siège ses scènes du jour, d'autant en emporte le vent, Encore une belle journée pour Vivien Leigh, mais seulement trois mots pour sa pomme, vivement que le pince-somme s'achève et que demain soit vraiment un autre jour. Il n'en pouvait plus de ce film. Ah, fallait maîtriser les appellations de Los Angeles, Carole et Clark, Vincent Duluc, le 13 janvier chez Stock. Demain, à partir de 9h dans Culture Média de Fête, le comédien François Berléand, l'animateur Christophe Beaugrand et la directrice de la rédaction de Cosette, Isabelle Moutreau. À suivre sur Europe 1, Anne Romanoff, le best-of. Passez une belle journée, à demain à 9h.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.